Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle David Rousset. Je suis français, donc en retard, technical évangéliste. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur mon blog. Et on va voir un petit peu le modèle de développement Windows 8 HTML5. Donc, qui est développeur JavaScript dans la salle? D'accord, à peu près la moitié. Les autres sont des curieux développeurs qui est C++, C-Sharp, Objective-C dans le lot. Pas mal, quand même. Donc vous allez voir ce qu'on peut faire en HTML5. Donc si vous avez vu la session que j'avais faite juste avant sur IE10, c'est pas mal de choses qui viennent de ce modèle-là. On va regarder un petit peu pendant 10 minutes les concepts de base, et ensuite on fera que de la démo pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. C'est le slide le plus important à retenir sur n'importe quelle session Windows 8 de développement. Ça explique vraiment les concepts de base qui sont derrière Windows 8. Il y a un nouvel OS. Un core OS qui a été refait, c'est-à-dire qu'on a retravaillé les performances, pas mal de choses, tout en gardant la compatibilité avec Windows 7. On a le monde précédent qui marchait sur Windows 7, où vous aviez votre navigateur préféré, que ce soit IE, Chrome, Firefox, qui exécutait du coup votre application en HTML, JavaScript, CSS. Si vous étiez développeur C++, le monde Win32, et pour finir, développeur .NET ou Silverlight, du C-Sharp. Tout ça reste fonctionnel aujourd'hui sur une application Windows 8. Tout ce qui fonctionnait sur Windows 7 fonctionne bien évidemment dans Windows 8. De l'autre côté, on a un nouveau modèle qui s'appelle WinRT. Donc ça veut dire Windows RT. Alors on a eu la bonne idée de nommer également la version de Windows pour les tablettes ARM Windows RT. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. C'est plus ou moins en rapport. C'est-à-dire que sur une tablette Windows RT, vous pouvez exécuter uniquement des applications écrites avec WinRT. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité d'avoir cette ancienne partie. Vous n'avez pas accès au bureau quand vous êtes développeur sur une tablette Surface RT, par exemple. Donc le monde pour viser tous les périphériques Windows 8 et Windows RT, c'est ce monde-là qui expose un nouveau modèle d'API qui s'appelle WinRT. Donc si vous étiez développeur .NET, par exemple, on a repris une grosse partie du framework .NET, on a regardé ce que vous utilisez le plus souvent, et on en a créé des namespaces. Sauf que là, ce n'est plus du manager, c'est du C++. On a un nouveau modèle qui s'appelle le mécanisme de projection, qui permet de partir du langage C++ et d'exposer ces API-là à n'importe quel type de langage, que ce soit JavaScript, C-Sharp, VB, ou C++, bien évidemment, qui communique bien sûr avec lui-même. C'est pour ça qu'en fait, au-dessus de ce jeu d'API WinRT, que vous soyez développeur C-Sharp, C++ ou JavaScript, vous ferez exactement la même chose avec le même niveau de performance. Donc souvent, dans les débats qu'on a dans le choix du langage, les gens nous disent ouais, mais JavaScript, il ne va jamais aller aussi vite que l'application qui est faite en C-Sharp ou en C++. On va dire dans plus de 90% des cas, les applications que nous avons sorties, les gens ne se posaient pas la question, on avait le même niveau de performance. Il reste des domaines où C++ sera privilégié, par exemple, pour tout ce qui est 3D, DirectX, etc., où on n'a pas la possibilité de faire ça en JavaScript. Dans ces cas-là, bien évidemment, le langage, si vous voulez faire un jeu en 3D, vous le ferez en C++. Si vous voulez faire une application classique, ne vous posez pas trop la question. Regardez ce que vous savez faire aujourd'hui. Vous allez prendre le langage qui vous paraît le plus approprié. Alors, côté C-Sharp, C++, on a le même moteur XAML. XAML qui est l'héritage du travail qu'on avait fait sur Silverlight. Si vous connaissez bien Silverlight, vous allez très très vite vous approprier le moteur XAML de Windows 8. Et bien sûr, pour les développeurs JavaScript, vous faites du HTML5 et du CSS3. Ce HTML5 CSS3, en fait, c'est le moteur d'Internet Explorer 10 qui l'exécute. Donc vous avez vraiment du code standard, le plus standard possible lorsqu'on le peut. Il y a certaines conditions où les standards n'étaient pas finis. Si vous suivez un peu l'actualité des standards, il y a par exemple l'accès à la caméra. Aujourd'hui, en cours de développement, il y a des démos qui sont faites, ou WebRTC, ce genre de choses. C'est en cours d'implémentation dans certains navigateurs en état brouillon. Lorsqu'on est sorti Windows 8, on était loin de cet état-là. Donc en fait, dans ces cas-là, c'est WinRT qui prend le relais. C'est WinRT qui va vous laisser accéder à la caméra pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors pareil pour tout ce que vous voyez en dessous, si vous voulez faire des impressions, ce genre de choses. Donc c'est la slide la plus importante. On va se concentrer sur cette partie-là. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans IE10 va marcher dans Windows 8, sauf que vous avez vu que le langage de design est un peu différent dans Windows 8, et vous aurez accès à tout ça en tant que développeur JavaScript. Alors dans IE10, il y a beaucoup de choses. Qui était à la session IE10 de ce matin? Pas mal de gens. Vous expliquerez à votre voisin. Non, rapidement, il y a beaucoup de choses sur CSS pour le layout. qui sont cachés si jamais vous utilisez nos contrôles, mais que vous pouvez utiliser bien évidemment vous-même. Donc vous pouvez reprendre une partie de ce que vous savez faire sur le web. Il faut faire attention à une chose, c'est qu'une application Windows 8 n'est pas un site web en termes d'expérience. Donc copier-coller un site web directement dans une application Windows 8 n'a pas vraiment de sens, sauf pour le jeu. Si vous m'avez vu faire la démonstration en plénière, dans un jeu, on n'a pas de guideline d'interface utilisateur. C'est votre univers, il est en plein écran, on ne va pas vous imposer une interface particulière pour votre jeu. Donc là, dans le cas d'un jeu, vous copiez-collez ce que j'ai fait à quelque chose qui vient d'une autre plateforme iOS, Android. Ça marche dans iOS 10, copier-coller, ça marche dans Windows 8. Donc on a plein de choses pour gérer les animations. On a également plein d'API intéressantes pour... Et une la plus intéressante lorsqu'on fait une application, c'est ECMAScript 5, qui permet donc du coup d'avoir la dernière norme de JavaScript actuellement, bon, en attendant que la version 6 arrive dans quelques années. Alors quelques démos d'applications utilisant HTML5, pour vous donner une petite idée. Alors vous avez mangé, donc ça devrait bien se passer. Donc celle-là, par exemple, est faite en HTML5. C'est une de mes préférées. Vous voyez ce petit contrôle ici, qui a l'air tout bête, c'est-à-dire qu'il gère un petit peu le côté magnétique qui revient. Il gère à la fois le touch, il gère ce petit côté magnétique. Il gère également la souris. Quand je passe la souris au-dessus, vous voyez, il y a un bouton qui s'affiche. Tout ça, c'est géré par le contrôle en lui-même, qui vient d'une librairie qui s'appelle WinJS. On va en reparler juste derrière. Donc typiquement, si vous venez du monde du web, peut-être que vous utilisez déjà des librairies comme Backbone, ce genre de choses. Nous, on a notre librairie WinJS que vous n'êtes pas obligé d'utiliser pour faire une application Windows 8. Si vous l'utilisez, vous avez directement le support du touch, de la souris et de l'expérience de design Windows 8. De la même manière, je peux aller consommer ici des données pour voir les recettes. Ici, on a ce qu'on appelle du multicolonnage. C'est géré par CSS3. Donc, le type de layout de Windows 8, si vous avez vu dans d'autres sessions, voilà, c'est cette navigation horizontale, cette présentation sans bord. Et donc c'est facilité par les contrôles que vous pouvez utiliser. Vous pouvez le faire vous-même en partant de zéro. Et dans ces cas-là, peut-être que vous pourrez reprendre le code pour aller vers le web. De la même manière, ça supporte le partage. Là, j'appelle les API de WinRT pour faire du partage, pour envoyer ici une requête directement par courrier ou vers une application de réseau social. Tout ça, il n'y a rien de spécifique à C++ ou C#. Vous pouvez le faire en JavaScript puisque vous appelez à ce moment-là une API qui vient du monde WinRT. Et vous avez vu, il n'y a pas de problème de performance. Donc c'est l'équivalent d'une Surface Pro en termes de puissance. Je posais la question tout à l'heure. Celle-là, je l'aime bien aussi, écrite en HTML5. Avec le dictionnaire, je n'ai pas de problème de perf ici. On a le support du Semantic Zoom, si j'y arrive ici, voilà. Donc vous avez pas mal, vous voyez cette gesture, Semantic Zoom. Avoir un zoom de haut niveau, c'est un contrôle WinJS que vous pouvez utiliser. Vous pourriez le refaire vous-même à nouveau, mais ça serait un petit peu de boulot. Et pour terminer, pour faire la pub aux copains qui ont travaillé depuis le début avec nous, News Republic est également faite en HTML5. Le développeur qui avait fait ça à l'origine, il a repris 80% de son code de WebOS et il a juste repris le look and feel de Windows 8 pour s'intégrer. Donc il a bien réussi à reprendre du code JavaScript d'une autre application. Donc c'est possible de faire du développement multiplateforme en HTML5 JavaScript. Il faut faire attention au look and feel Windows. Lorsque vous allez toucher Windows RT, vous loquez cette partie de code à Windows. Donc débrouillez-vous pour éventuellement faire des couches d'abstraction avec vos propres modèles, objets. Et là, vous aurez la capacité de... Je ne sais pas sur quoi je suis tombé comme news. Hein. Ouais. Je n'ai pas fait gaffe. Bon, désolé, pas toujours de la chance. Donc voilà. Donc un petit peu de slide et puis on va faire du code. La librairie WinJS, qui veut dire donc Windows Library for JavaScript, vous propose ce que je viens de vous expliquer en fait. Réimplémenter le langage de touch, le design de Windows 8. Ça utilise des patterns modernes de développement. J'espère que tout le monde sait maintenant qu'on peut faire de belles applications robustes en JavaScript. Il y a des design patterns pour le faire. Et puis la qualité du développeur, c'est toujours la même chose. Donc on implémente vraiment les dernières approches web dans ces contrôles-là. Le code source est disponible parce qu'on vous référençait du JavaScript, vous pouvez le voir. Et ce qu'on vous propose dedans, c'est un ensemble de helpers, la possibilité d'avoir des contrôles, j'en ai parlé, un moteur d'animation, un moteur de templating, un moteur de binding, un moteur de navigation, des promises, je ne sais pas si vous connaissez tous le pattern promise, on le verra ensemble, c'est la capacité d'écrire du code pour gérer l'asynchronisme, qui est quand même relativement lisible, avec un point zen de continuation, on va le voir juste après. Et c'est implémenté par exemple dans jQuery si vous en faites. Et bien sûr, un ensemble de feuilles de style par défaut pour reprendre l'interface Windows 8. Donc on vous donne des feuilles de style, ensuite à vous de les surcharger, de les modifier pour faire le design que vous voulez. Par exemple, on prend les contrôles par défaut qui sont ici. Donc ça, c'est vraiment le style natif qui est fourni avec les feuilles de style. Si vous travaillez avec un designer qui maîtrise CSS, il peut soit modifier les contrôles, soit les rendre plus jolis. Donc dans ces cas-là, moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple ce slider-là, il est quand même assez joli. C'est juste un slider classique qui a été customisé avec du CSS. Pareil, ça, on l'extrait du code, ça marche sur n'importe quel navigateur. Ben voilà, donc c'est fini pour l'intro. Donc maintenant, le mieux, je pense, pour comprendre, c'est de voir du code. On va fermer ça. Donc vous lancez Visual Studio, faites nouveau projet, et là donc vous avez un nouveau type de projet qui est JavaScript pour le Windows Store. Donc ça veut dire que vous allez utiliser le jeu d'API Windows RT pour viser une application que vous pouvez déployer sur le store. Vous n'êtes pas obligé de faire une application forcément qui va être sur le store, vous pouvez faire une application d'entreprise qui utilise le même modèle, et dans ces cas-là, vous n'allez pas déployer sur le store, mais vous allez déployer vous-même sur votre infrastructure d'entreprise, mais vous allez partir de ce modèle-là malgré tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une application vide, vous avez des templates d'applications prédéfinies, comme d'habitude chez Microsoft, pour vous aider. Typiquement, celui-là, c'est le plus complet, il implémente le framework de navigation, tous les moteurs de binding, etc. Je vous déconseille de sauter directement dans celui-là. Moi, j'en ai fait l'expérience, bon, ça fait plus d'un an et demi que je suis sur le développement de Windows 8, mais la première fois que je suis tombé directement dedans, c'est un peu chaud de comprendre tout ce qui se passe. Donc partez étape par étape. Et ensuite, je considère que quelqu'un maîtrise bien le développement Windows 8 lorsqu'il est capable de refaire le template en partant de zéro. En général, c'est que vous avez commencé à bien maîtriser. Donc on va partir de zéro. On va l'appeler TechDays 2013. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit lecteur de flux RSS. Donc, je sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens qui étaient aux sessions Windows 8 l'année dernière ? Cool. Donc en fait, lorsque vous faites un projet Windows 8, on essaye d'organiser les choses pour vous. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'on fait. On a le fichier de démarrage, votre index si vous voulez, les fichiers CSS, ici, et le JavaScript. Il y a également, si on regarde, des références qui sont faites à cette fameuse librairie par défaut. Et dans cette librairie, si on regarde ce qui se passe dedans, vous avez du CSS et du JavaScript. Donc si vous voulez voir comment nous on a fait nos propres contrôles, si vous voulez faire vos propres contrôles, parce que ça ne va pas assez loin dans ce que nous on propose par défaut, regardez comment on a fait, inspirez-vous, et puis faites vos propres contrôles. Il y a une session d'ailleurs sur Deep Dive WinJS qui vous explique comment faire vos propres contrôles. Une fois que c'est référencé ici, on va pouvoir les utiliser. Donc la première étape, ça va être de faire un peu de HTML. On va gagner du temps, hein, on ne va pas tout écrire. Je fais quoi ? Je fais un div principal main, qui sera le conteneur global de tout mon HTML. Je peux mettre du HTML5 sémantique, je vais avoir mon header ici, et une section où je vais avoir le contenu de mes articles. Le but du jeu ici, c'est de faire un lecteur de flux RSS. Donc j'aurai un header avec bienvenue dans telle partie de RSS, et ensuite les articles en eux-mêmes. Une fois que j'ai défini mon contenu, il faut que je définisse mon CSS. Et là, on voit que j'ai plusieurs types de vues qui utilisent les media queries, couplés à un truc propriétaire à Windows 8. Ce sont les différents types de vues. Si je reprends Marmiton, le problème, c'est que comme je ne suis pas en 1366 par 1024, je vais le faire dans le simulateur. Sachez que si vous n'êtes pas en minimum, j'ai toujours un problème avec la géométrie, moi. Si vous n'êtes pas en minimum en 768 de hauteur de pixels, vous ne pouvez pas lancer les applications Windows Store. Et si vous n'êtes pas en minimum en 1366 de large, vous ne pouvez pas voir toutes les vues Windows 8. Là, j'ai plus qu'à attendre que le simulateur se réveille. Voilà. Donc, je vais reprendre Marmiton ici. Là, voilà. Donc, du coup, je triche, je lance dans le simulateur. C'est sympa. C'est ma journée aujourd'hui. Hein. Voilà la même, si je prends cette application, elle est ce qu'on appelle en full screen. Donc je suis actuellement dans cette media queries ici. Si je prends l'application et que je la mets sur le côté, ce qu'on appelle la vue snap, dans ces cas-là, j'ai une autre media queries qui se met en route, qui est ici, où là je vais décider de comment je redistille mes contrôles sur la page. Cette vue Snap, elle est particulière à Windows 8 puisqu'on peut exécuter deux applications côte à côte sur une tablette. Et dans ces cas-là, c'est à vous de travailler avec vos designers ou les développeurs de voir qu'est-ce que je mets en avant dans mon application dans cette vue particulière. On peut imaginer une application qui fait du Twitter, où là vous avez une expérience plein écran avec plein d'informations. À partir du moment où je la mets sur le côté, j'ai plus qu'une partie du flux Twitter qui tourne en live pendant que je fais quelque chose d'autre sur la partie droite. Donc ça, c'est la vue, ce qu'on appelle Snap. Et si je vais prendre une autre application que j'aimais ici, c'est ce qu'on appelle la vue Fill. Voilà. Ces trois vues sont obligatoires pour aller sur le Windows Store, quitte à mettre juste une image pour un jeu. Par exemple, si je prends, si j'ai mis un jeu ici, est-ce que j'ai installé Cut the Rope? Ouais. Donc, Cut the Rope a été fait en HTML5 aussi. Oui, si tu veux. Et si je prends la Cut the Rope, je mets sur le côté, tout ce qu'ils ont fait, c'est un écran disant pour jouer au jeu, repassant en plein écran. On considère que ça suffit pour aller dans le Windows Store. On vous incite quand même à mettre une expérience un peu plus sympa que juste ça. J'ai vu des développeurs de jeux qui mettaient le petit personnage qui continuait de bouger pour vous dire, vas-y, reviens jouer à mon jeu si vous voulez, quoi. À vous de faire ce que vous voulez, mais ça suffit pour aller dans le store. Donc du coup, là, c'est là où je vais gérer mes différents CSS. Pendant cette session, on va gérer que la partie plein écran. Donc la partie portrait n'est pas obligatoire, hein. Nous, on travaille vraiment en paysage 16/9. Et là, j'ai un petit peu de CSS qui est fait. Et je vais vous montrer un peu ce que ça fait dans un autre outil qui est pratique, qui s'appelle Blend. Ces deux outils, Visual Studio 2012, que ce soit la version Express ou Blend, sont gratuits en téléchargement avec notre SDK. Vous pouvez le récupérer. Et là, en fait, vous voyez en live ce qui se passe dans votre layout, en fait. Et ce qui est pas mal, c'est que si je vais sur le live DOM ici, je peux voir la structure de la grille que je suis en train de définir. Donc, vous voyez en temps réel ce que j'ai fait. Là, je définis une grille, en fait, une première grille qui stocke sur toute la largeur des éléments, et une deuxième grille à l'intérieur sur deux lignes. La première ligne ici, j'ai mon titre Welcome to Channel 9. Et l'avantage, en fait, de ces spécifications, c'est que vous avez la possibilité d'aligner des éléments, donc on va le voir ici, assez simplement, c'est-à-dire que là, si je ne veux plus être aligné au centre, mais plutôt à la fin de ma colonne, il peut le faire, de ma ligne, pardon, au démarrage, la spécification est assez intéressante, assez puissante pour faire des layouts. Donc c'est la base de notre layout, c'est la spécification CSS3 Grid qui est actuellement en cours de spécification W3C. Donc ça, vraiment, c'est utilisé partout dans Windows 8. Donc une fois qu'on a ça, dans cette zone-là, on va récupérer des articles qui viennent d'un blog. Donc pour ce faire, il me faut une zone, un contrôle pour les afficher. Ce contrôle, on va utiliser un contrôle de WinJS, vous allez voir comment on le fait. Donc je vais l'appeler la liste des articles. Et pour transformer ce div en un contrôle WinJS, on travaille par attribut. Donc j'ai un truc qui s'appelle DataWinControl. Si je fais égal, il me propose, voici la liste des contrôles que WinJS est capable de te proposer. Donc le flip view, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans Marmiton qui permet de faire défiler les images. Donc ça, c'est un contrôle parmi d'autres. La list view, c'est celui qui est vraiment le plus utilisé dans l'application Windows 8. Je vais prendre la list view. À partir de quel moment, en fait, ce div-là se transforme en contrôle JavaScript? C'est à l'exécution d'une ligne de code particulière, qui est ici, qui est le process all. Le process all, on voit bien qu'il vient de WinJS. Ce qu'il fait, c'est au démarrage de l'application, il va regarder tout ce que vous avez tagué dans le HTML avec cet attribut-là, data-wincontrol, et ensuite, il va regarder quel type d'objet vous voulez. Il va instancier les objets JavaScript à la volée pour les rattacher au DOM, et le div tout bête qu'on avait devient un objet complexe avec plus d'événements, du support du binding, etc. Conclusion, si vous enlevez cette ligne-là, il n'y a plus rien qui marche. Donc faites gaffe, vous ne dites pas, je ne sais pas ce que ça fait, je vais l'enlever. Non, vous ne l'enlevez pas. Et cette ligne aussi, ce qu'il faut savoir dans Windows 8, si vous n'avez pas suivi les autres sessions, tout est asynchrone dans Windows 8. On a considéré que tout ce qui pouvait prendre potentiellement plus de 50 millisecondes d'exécution, on l'a rendu asynchrone. Pendant des années, on a essayé d'intéresser les développeurs à la performance avec des librairies pour faire du code parallèle, de l'asynchronisme, du multithreading. En fait, bon, on est tous un peu pareil. Au bout d'un moment, on se dit, oh, on va tout foutre dans le thread principal, ça ne va pas se voir. Et donc, du coup, bah, ça ramait. Nous, on s'est dit, on ne veut pas que les gens aient l'impression que si ça rame, c'est à faute de Windows 8. On veut bien voir que c'est votre faute à vous. Donc, on met tout asynchrone par défaut. La synchronie, ce n'est pas toujours simple à gérer. En JavaScript, c'est des callbacks de callbacks, ça fait du scone un peu spaghetti. Donc, on va voir comment gérer l'asynchronisme avec la pattern qu'on appelle promise. Et sachez que ce code-là, cette ligne de code-là, est exécutée en asynchrone, c'est-à-dire que vous avez la main juste derrière. Donc, on va essayer maintenant de faire une fonction qui va récupérer tout ça. D'abord, il nous faut un petit peu d'objets. Donc, je vais déclarer ici certains objets. On voit que je vais prendre une collection qui vient du monde WinJS. Cette collection est un peu particulière, c'est que je vais pouvoir pousser des informations dedans. Qui est développeur XAML dans la salle? Quelques-uns. Alors pour les développeurs XAML, ils connaissent. Ensuite, je vais pouvoir binder cette collection à mes contrôles de l'autre côté. Pour ceux qui ne connaissent pas, sachez juste que je vais avoir une liste en mémoire, je vais pouvoir pousser des objets dedans et automatiquement, l'affichage va être rafraîchi par un mécanisme de binding. Sauf que ici, depuis tout à l'heure, on utilise ce qu'on appelle des patterns modernes de développement. On utilise ce qu'on appelle le module pattern. J'ai une fonction JavaScript qui est auto-exécutée. Alors ça, qu'on ne vient pas du monde JavaScript, c'est un peu particulier. Vous voyez, ça commence par une parenthèse et ça finit directement comme ça. En fait, on a une fonction anonyme auto-exécutée, ce qui nous permet en fait de faire une forme d'encapsulation. Par défaut, vous savez que JavaScript travaille dans l'objet global, ce qui est le mal, parce que du coup, on se retrouve avec, on pollue l'objet global avec des centaines de variables. Et puis, si vous avez un développeur, vous reprenez son code, vous l'injectez, vous pétez tout potentiellement. Ben là, pour éviter ça, on va encapsuler son code avec cette technique de programmation qui n'est pas spécifique à Windows 8, que vous trouvez de plus en plus sur le web. Et donc, comment ensuite afficher finalement des membres vers l'extérieur? Ça va faire avec un mécanisme qu'on appelle de namespace. Alors, si vous êtes développeur JavaScript assez avancé, vous savez ce que c'est. Nous, on fournit des helpers en disant, cette liste qui, en interne, si vous voulez, dans mon objet actuel, s'appelle article list, j'aimerais bien que publiquement, vers l'extérieur, qu'on l'utilise. Je l'appelle plutôt itemList. Et une fois que j'ai fait ça, je définis un namespace qui va s'appeler C9Data, qui va contenir la liste des membres publics que je veux exposer vers l'extérieur. L'avantage, c'est que du coup, ce module est exécuté, il fait sa tambouille et il expose vers l'extérieur ce dont les autres ont besoin. Donc en fait, il ne casse rien. On a bien du code modulaire de cette manière-là. Une fois que j'ai fait ça, il faut remplir cette liste-là depuis des choses qui viennent du web. Donc je vais faire une requête XML HTTP request vers le bloc de Coding for Fun. Donc voilà, là, il y a Coding for Fun, il y a un flux RSS. Je vais le faire. Donc du coup, ça va prendre du temps. Ça prend du temps, c'est une requête asynchrone par essence. Comment enchaîner l'exécution? Pour l'enchaîner, on le fait avec cette fameuse pattern promise. Donc c'est .zen. .zen, en gros, dit, une fois que tu auras fini l'exécution de ton code asynchrone, au lieu de vous abonner à une méthode de callback, vous mettez tout de suite le code que vous voulez continuer. Donc c'est assez pratique pour l'écriture du code. Vous pouvez enchaîner bien sûr des .z de .zen si vous avez plusieurs appels asynchrones. Ça se passe d'ailleurs relativement souvent dans le code Windows 8. Et ce que je vais avoir en retour quand le code sera fini, c'est un flux RSS. Alors le flux RSS, rien de particulier, il faut le parser. Il faut juste savoir que depuis IE10 et dans Windows 8, on utilise le sélecteur standard pour la réponse XML. Donc ici, ce que vous passez, c'est des sélecteurs CSS à la réponse XML. Et ensuite, ce que je fais, j'instancie des objets à la volée. Ça, c'est le côté pratique de JavaScript, où je définis les propriétés qui m'intéressent. Je récupère le titre de l'article, la petite vignette, l'image, et le contenu même de l'article. Et je mets tout ça dans la collection dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient du monde WinJS. Donc là, je suis en train d'alimenter ma collection. Donc j'ai bien ma zone mémoire qui est prête. Ce qui me reste à faire, c'est le mapping avec la partie HTML. Alors déjà, il y a un truc que j'oublie souvent, c'est d'appeler mon propre code. On va le faire tout de suite. Tout à l'heure, je vous disais que ce code est asynchrone. Donc pour pouvoir enchaîner sur une partie suivante, j'utilise le zen. Donc, je fais code, tu as terminé, alors exécute mon code qui va aller télécharger le flux RSS. Donc là, je l'aurai bien en mémoire. Reste à définir côté HTML, affecter la data source vers mon objet. Vous avez deux façons de le faire, par code, c'est-à-dire que vous récupérez un pointeur, si vous voulez, en faisant un getElementById de votre truc et vous rajoutez la source par code. Vous pouvez le faire de manière déclarative, ce qu'on va faire ici, vous faites dataWinOption égale. Et là, alors ça ne s'invente pas, il faut lire un peu la doc ou récupérer les exemples de code. Il y en a 200 exemples de code sur dev.windows.com. Et là, il faut prendre quelque chose qui est public. Ça vient du namespace C9Data. C'est public. Vous vous souvenez, j'ai créé un namespace. J'avais appelé itemList. Et dans cette collection, il y a un truc qui s'appelle DataSource. C'est la propriété utilisée pour le data binding. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai géré la collection mémoire, j'ai géré le HTML, il reste le visuel. Le visuel, il est géré par CSS. Et c'est C9ListViewCSS. Qu'est-ce que je fais en fait? J'indique dans ce bloc de CSS la taille de chacun de mes éléments. Et par défaut, je veux qu'ils fassent tous 150 pixels par 150 pixels, de manière arbitraire. Une fois que j'ai fini tout ça, si tout se passe bien, j'exécute l'application. Ouais. Alors, ça me permet de vous montrer un truc intéressant. Il me dit GroNAS, alors c'est la version anglaise de ça, hein. Et il dit, tu m'as dit useStrict now. useStrict, c'est la partie strict mode d'ECMAScript, hein, qui est assez pratique, qui vous interdit d'utiliser des variables non déclarées en JavaScript. Pourquoi c'est mortel? Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, il ne connaît pas la variable, c'est pas grave, je l'ajoute à l'objet global. Et vous, pendant des heures, vous galérez en disant, mais d'où elle sort cette variable? Donc là, en gros, ça me permet de me rappeler qu'il faut bien l'avoir déclarée avant de l'utiliser. Donc du coup, là, j'ai pas une super expérience, que je ne fais pas attendre l'utilisateur, mais il est en train de charger la liste. Alors vous allez me dire, pour l'instant, c'est moche, on est d'accord. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'AuTouch peut déjà sélectionner les éléments. Donc il a déjà géré la gesture de sélection de Windows 8. Il gère la souris aussi, avec le bouton droit. Et il a commencé à utiliser l'espace de manière homogène. C'est-à-dire, quelle que soit la résolution que vous avez, il se débrouille pour utiliser la bonne résolution. C'est-à-dire que si je le charge maintenant, ici, dans mon simulateur, je vais changer la résolution, je vais le passer en 2500 par je ne sais pas combien, là. En 27 pouces, voilà. Maintenant, il faut que je retrouve l'application. Ça doit être celle-là. C'est pas ça du tout que je voulais que ça fasse. Donc, on va lancer dans le simulateur directement. C'est bizarre parce qu'il n'a pas du tout chargé le layout. Je pense que le simulateur, il est mort. Ouais, bon. Il est nul le simulateur, n'utilisez pas le simulateur. Enfin, si vous utilisez une autre résolution, vous regarderez sur les écrans à vous, WinJS s'adapte automatiquement à la résolution, donc c'est assez pratique. Le simulateur apparemment est fatigué. Maintenant que j'ai fait ça, je vais retourner dans Blend. Blend, il me dit qu'il y a une modification extérieure. Je fais OK. Et il va recharger en live les données, c'est-à-dire que de manière dynamique, il fait cette requête XHR, il monte les objets, il utilise le binding. Vous n'avez pas des objets, on va dire, fake que vous utilisez des vrais jeux de données. Pour l'instant, c'est moche. Pour pouvoir le démochifier, on utilise ce qu'on appelle des templates. Alors ceux qui font du XAML aussi, ils ont l'habitude de ce genre de choses. C'est quoi un template? C'est à nouveau un bête morceau de HTML que vous allez utiliser avec ces fameux attributs DataWinControl. En gros, là, je veux transformer ce morceau de HTML en un template qui va servir à dessiner chacune de mes cases. Et là, j'utilise, au lieu d'une list view, j'utilise un template, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, il faut que j'indique comment remplir ce template par le processus d'itération automatique qui va être lancé. Bah, typiquement, là, je lui dis la source de mon image HTML. Tu vas aller chercher la propriété summail tout à l'heure que j'ai remplie lorsque je faisais ma requête. Donc automatiquement, il va faire le mapping pour vous. Il va dessiner chacune des cases de la list view avec ce mécanisme de templating. La dernière chose à faire, c'est de lui dire d'utiliser ce petit morceau de HTML comme rendu à la place dessus par défaut. Vous avez une propriété qui s'appelle itemTemplate et lui, ça attend à vous lui donner l'ID de votre template qui est ici. Et maintenant, si je relance l'ensemble, ça devrait être un peu moins moche. Voilà, on commence à avoir des images qui s'affichent. Mon layout n'est pas encore nickel, donc on va fixer le layout ensemble avec Blend. Donc Blend, je le recharge. Il recharge l'ensemble ici. Et là, ce qu'on voit, c'est que je vais vouloir définir finalement la façon de dessiner chacune des cases. Donc je vais dans la partie CSS, qui est ici. Les assets. Et ce que vous n'avez peut-être pas vu, ce que j'étais peut-être un peu vite, c'est que j'ai positionné une classe ListItemTemplate sur mon template en lui-même et une image dedans. Donc en fait, je vais créer une règle pour cette classe-là, ici. Vous allez voir, il est assez sympa, Blend. Si je crée cette classe-là, si je fais point ListItemTemplate, vous voyez, il sait que j'ai déjà cette classe utilisée 25 fois, par exemple, sur dessin-là. Donc il va vous aider à éviter de vous planter. Et il vous montre directement la sélection qui est faite. Dans la résolution, c'est un peu petit, hein, je suis désolé. Ensuite, je veux sélectionner dans cette partie-là toutes les images. Et donc, j'ai fait les sélecteurs qui vont bien. Plutôt que de faire 150 par 150, je vais faire ici, dans la taille, 250 par 250. Alors là, je prends la casquette du designer que je ne suis pas. Donc, j'apprends par cœur des valeurs que les designers m'ont conseillées. Donc voilà, là c'est apparemment mieux. Une fois que j'ai fait ça, il faut laisser respirer un peu chacun des éléments. Donc on va dire qu'on va se faire de. Non, d'abord on va changer les images. Les images là pour l'instant elles sont comme ça. Vous avez deux façons de sélectionner. Vous sélectionnez un des éléments et vous voyez toutes les règles CSS actuellement appliquées. Là je retrouve ma règle qui m'intéresse et je peux redimensionner bien évidemment chacune des images. Ou alors le designer va vous dire mais non, c'est 234 pixels de largeur par 165, mon cher ami. Bien sûr. Et là, effectivement, ça a vachement plus de gueule. Et une fois que vous faites ça, il ne reste plus qu'à avoir 8 pixels entre chacun des éléments. Donc vous avez fait dans la partie layout, margin. Là, je bloque la margin pour que ça soit la même marge partout de 8 pixels. Alors il y a un petit temps d'adaptation à Blend, mais ça vous fait gagner vraiment vachement de temps. Pour finir, les règles. Ex-métro, vous avez dû entendre parler du langage métro qu'on n'a plus le droit d'utiliser, donc je ne l'utilise plus. Moderne UI maintenant, nous impose d'avoir l'élément aligné ici sur le welcome, qui a 120 pixels par rapport à la gauche. Pour ce faire, du coup, il faut que je décale l'ensemble du contenu ici. Pareil, ça ne s'invente pas. Soit vous lisez la doc, soit j'ai un ensemble d'articles qui décrit comment le faire. Il y a une classe qui est positionnée sur la surface de dessin, elle s'appelle win-surface. Vous voyez qu'il sélectionne du coup toute cette partie-là. Et je vais lui dire soit à 120 pixels moins les 8 pixels de marge, 112 pixels par rapport à la gauche. Et là, je respecte la philosophie Windows 8. On n'a pas le droit d'être collé au bord de l'écran. Si vous aviez utilisé le template que je vous ai montré au début, tout ça c'est fait pour vous. C'est juste pour vous montrer en fait, si vous partez de zéro, le boulot que vous aurez peut-être à faire potentiellement. Donc là, il me dit un designer a modifié ta partie. Vous relancez l'ensemble. Et là, ça commence à avoir une bonne tête. Et j'ai toujours la sélection qui est valide. L'étape d'après, ça veut dire que quand je clique dessus, je vais aller sur la vue détail. Donc on va le faire. Donc je fais une technique qui n'est pas super chouette. Normalement, il faut utiliser le moteur de navigation. Là, je vais faire une technique dite de la démo. Donc ne faites pas ça chez vous. Je vais avoir une deuxième div et je vais en planquer un. Pour simuler le fait que je navigue. Donc je clique dessus, je cache la liste et j'affiche celle qui est derrière. Vous voyez ce que je fais? C'est un peu pourrave, parce que si vous faites ça dans une application, vous avez 12 000 divs. Bon. Donc sinon, faites le framework de navigation. Je dis ça parce qu'il y a malheureusement des gens que je ne citerai pas qui sont partis en prod là-dessus. Donc ça, je vais ensuite récupérer cet élément-là et je vais le remplir avec le contenu de l'élément sur lequel je vais cliquer. Alors pour ce faire, je déclare mes handlers. C'est quoi mes handlers? Je vais récupérer l'élément que je viens de vous indiquer ici. Alors, la liste en elle-même. Cette liste, elle a un événement item invoke parce que j'ai mon processal qui est tourné. Donc j'ai un contrôle WinJS ici. Donc c'est un événement qui n'existe pas normalement sur du HTML5 standard. Et sur mon bouton back, bah, c'est un bouton classique, je fais le clic. Donc lorsque je vais cliquer sur un élément, en fait, cet événement va être levé, il va m'indiquer tu as cliqué sur le huitième élément, à toi de faire ce que tu veux. Moi, ce que je veux, bah, c'est aller récupérer l'élément sur lequel j'ai cliqué, qu'on voit ici. Donc ici, je vais avoir l'item index. Je vais récupérer la valeur sur laquelle j'ai cliqué et je vais l'injecter directement dans le morceau de HTML qui m'intéresse. Alors, petit aparté de sécurité. Une application Windows 8 exécute du code JavaScript, HTML, etc. côté client. Certains ont été tentés de se dire, mais c'est génial, si je veux bypasser le store, il suffit que j'ai une partie de mon code ou HTML qui est sur le serveur, je l'injecte dynamiquement, régulièrement dans mon application, et c'est moi-même qui maintiens à jour mon application. Alors, On vous empêche de faire ça pour des raisons purement de sécurité, peut-être aussi pour des raisons pour éviter que vous bypassez notre store, je ne sais pas. Mais c'est surtout la sécurité. Imaginons que quelqu'un compromette votre application et injecte du script. Là, on est dans un environnement qui est full patate. C'est-à-dire que j'accède au système de fichiers, à la caméra, je fais ce que je veux. On n'a pas trop envie que n'importe quel script public puisse faire ça. Donc par défaut, on vous empêche de manipuler des propriétés qui sont protégées, sensibles. Ensuite, on vous laisse malgré tout la possibilité de dire « moi, je suis un grand, je fais ce que je veux, je me fais confiance à la partie serveur ». Ça s'appelle « set inner HTML unsafe ». Et vous précisez l'objet HTML que vous ciblez, et vous dites bah, « je bypass la sécurité, je veux injecter directement dans la propriété HTML, du HTML qui vient du web public ». On vous protégera malgré tout, vous ne pourrez pas exécuter du script, il y aura toujours un mécanisme de protection. Mais là, au moins, vous pourrez récupérer du HTML public, dynamique, là, qui vient d'un flux RSS, pour l'injecter dans votre propriété. À part cette petit détail, tout ce que je fais, c'est ce que je vous disais, je cache un div et j'en affiche un autre. C'est pas super, hein, mais ça permet d'aller vite. Donc du coup, maintenant, quand je vais cliquer sur cet élément-là, par exemple, je vais bien sur la partie suivante. Pour l'instant, l'écran est mal designé. Et là, vous devriez être choqué, normalement. Qu'est-ce qui vous choque ? Voilà, il y a ça, mais ça c'est pour plus tard. Mais un truc moi qui choque plus, c'est pas fluide, c'est pas fast and fluid. Pourquoi on vous saoule avec ça? On a fait des études ergonomiques qui disent que là on a, ça revient tout de suite, mais l'utilisateur a l'impression que c'est pas génial. Si on rajoute une légère animation de transition, ça suggère la performance. Alors ça a l'air tout con, mais il y a des gens qui bossent dur là-dessus. Donc merci de respecter leur travail. Vous avez deux façons de le faire. Vous faites vous-même votre transition, donc vous tapez la transition côté sur n'importe quel objet, donc je ne sais pas, moi je prends article list. Voilà, je fais un nouveau sélecteur, et puis je rajoute une transition que j'ai définie moi-même. Donc ça, je la fais. Vous savez le problème avec les développeurs, vous leur donnez des trucs à jouer avec de la 3D et tout, vous avez des logos en flammes qui tournent dans tous les sens, ils n'ont pas amélioré l'expérience utilisateur. Donc on a précodé des animations pour vous. En tout cas pour moi, ça marche bien. WinJS, en fait, crée la volée du CSS3 transition animation avec des animations précodées. Et c'est ce que je vais faire. Là, je vais dire, bah, quand l'élément arrive, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre la liste du contenu ici. D'ailleurs, c'est l'autre. Et tu vas l'animer. Et là, on a une animation précodée. Vous pouvez aller voir le code de WinJS, hein, parce que vous avez accès, et vous verrez que c'est des transitions, des transformations qui sont faites pour vous. Je fais la même chose pour l'autre. Et là, normalement, ça devrait vous bluffer. Vous avez vu ou pas? Ouais, ça, et bien là vous avez l'impression, voilà, là l'application est speed. Ben, l'air de rien, on est quand même assez chiant là-dessus. Pour les applications, on veut vraiment vous inciter à le faire, ça coûte rien. Hein, et ça donne vraiment l'impression de réactivité. Au touch, c'est très très sensible. Je pense que vous êtes tous des device touch maintenant. À la souris, on s'est habitué à avoir le petit donut et tout, on attend. Au touch, si ça ne se passe pas un truc, immédiatement, on se dit « Ah, il y a un souci, le truc, il rame. » Donc ça participe à améliorer l'expérience de navigation dans l'application. Bon, on va finir pour aller designer l'écran d'après. Donc pour designer, on va utiliser Blend. Blend, il dit « Vous avez modifié un truc, je le recharge. » Comment je fais du coup pour aller dans l'écran d'après? Parce que là, j'ai l'écran principal. Blend, il y a un petit bouton qui est ici, qui est le mode interactif, qui vous permet en fait d'aller sélectionner la navigation, de figer l'état d'exécution à ce moment-là, et de commencer à travailler son layout. Ça, ça tue, j'adore. Et une fois qu'on a fait ça, et ben on se fait du CSS classique. Donc là, je vais faire le sélecteur article content. On va faire 2-3 trucs, on va lui dire qu'il va prendre 100% de l'espace disponible, ici et ici. Ensuite, ce que je vous disais, c'est qu'il faut respecter ce que vous disiez tout à l'heure, ça fait plaisir, les 120 pixels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 120 pixels donc, dans le layout ici. On va faire du padding cette fois-ci, 120 pixels par rapport à la gauche. Problème, si vous regardez bien, en faisant ça, j'ai mon contenu qui déborde du coup. Moi, j'aimerais bien faire 120 pixels, mais enfin 100% moins 120 pixels. Il y a un opérateur qui est prévu pour ça, qui est standardisé. On était les premiers à le supporter dans IE, c'est quand même suffisamment rare pour qu'on le précise. Donc ce qu'on va faire, c'est sizing, au lieu de faire width 100%, je vais faire custom expression, et ça s'appelle l'opérateur calc. Donc il peut faire des calculs pour vous, alors ce n'est pas des calculs super complexes, je fais 100% moins 120 pixels, Et boum, je suis directement bon ici. Reste à faire quoi pour avoir un bon layout, avoir du multicolonnage? Ultra simple, multicolonne, je vais faire des colonnes de 480 pixels de large. Hop, il est en train de structurer le layout, séparé par 80 pixels. Voilà. Et il me reste plus qu'à autoriser le fait de slider uniquement sur la gauche. Alors on peut slider que dans une seule direction à la fois sur une application Windows 8, parce que sinon vous partez dans tous les sens sur la tablette, ça ne va pas le faire. Donc il y a un truc qui s'appelle overflow. Donc j'autorise l'overflow en X et je l'interdis en Y. Du coup, je retourne dans Visual Studio. Je vais relancer l'ensemble. Et ça commence à ressembler à une application Windows 8 classique. Alors il manque des choses pour faire une application Windows 8 qui marche bien. Il manque la vue Snap. Je ne l'ai pas gérée pour l'instant. Donc refaire le CSS. Il manque un splash screen quand même, parce que c'est con de partir sur le store avec le splash screen par défaut. Et gérer l'offline peut-être. C'est-à-dire que là, si je n'ai pas de connectivité Internet, mon application ne se lance pas. Vous avez le droit de mettre des applications sur Windows Store qui marchent uniquement en ligne, mais il faut au moins catcher l'événement qui dit qu'il n'y a pas de connectivité Internet. Mettez un message sympathique à l'utilisateur, cette application a besoin d'une connectivité, revenez plus tard. Parce que sinon, moi, mon application, certainement, elle va se crasher. Et vous passerez pas le store, de toute façon. Un ruban, ça ne fait pas partie des guidelines. Vous pouvez le faire hein, ensuite, hein, mais vous voulez être un petit peu atypique sur le store. Alors ça, c'était la partie pure HTML5, CSS et WinJS. On n'a pas vraiment vu WinRT ici. Donc je vous propose rapidement de voir comment fonctionne WinRT. On va faire un nouveau projet qui manipule la caméra. Donc on va l'appeler Camera. Donc on va aller dans la partie HTML pour avoir un container. Donc on va appeler un container principal qu'on va appeler application par exemple. Et dedans je vais mettre un tag vidéo. Puisque si je veux afficher le flux de la caméra, c'est l'HTML5 tag vidéo qu'il faut utiliser. Je vais l'appeler live preview. Voilà. Côté JavaScript, je vais avoir un. Je vais déclarer un truc qui s'appelle live preview qui va récupérer mon tag. Et je vais faire une fonction ici d'initialisation qui va récupérer mon tag live preview, voilà, qui fait document.getElementById de mon live preview. Je ne me suis pas planté si je me suis planté. Ouais, ça c'est une bonne idée de nommer ces trucs très proches. Hein. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais démarrer la caméra. On va voir comment on démarre la caméra. N'oubliez pas d'appeler votre code. C'est un problème que j'ai beaucoup perso. Alors, je ne sais pas si je suis seul au monde, mais... N'appelle pas son code, il ne s'exécute pas. Je vais démarrer la caméra. Et pour démarrer la caméra, il me faut un objet qui vient de WinRT. Donc j'ai un objet que je vais nommer MediaCapture. Je fais New, et là, dès que je suis dans le namespace Windows, je suis dans le namespace WinRT. Tout le monde utilise le même, C++, C#, donc développeur JavaScript. Donc là, je suis en train d'appeler du code natif. Donc j'ai un truc qui s'appelle media.media.capture, voilà, .media quelque chose. Donc ça, il y a plein d'exemples de code, si vous ne voulez pas perdre plein de temps. Il faut initialiser la caméra. Initialiser la caméra, c'est forcément un peu long. Donc c'est asynchrone. D'ailleurs, le nom de la méthode le dit, async. Donc comme ça va prendre du temps, une fois qu'il aura terminé, je fais un point zen de continuation. Là, j'aurai une fonction anonyme qui va être exécutée. Et une fois que j'ai fait ça, la caméra est initialisée. Il faut que je prenne le stream de la caméra et que je l'envoie dans mon tag vidéo. Donc pour ce faire, je prends le tag vidéo qui est ici, la source. Il faut que je convertisse finalement le stream en une URL de données. Alors ça, c'est un truc qu'on commence à trouver sur le web. Vous faites window.url, window.url, non, je suis en train de me vautrer, url.createObjectURL, voilà, qui est sur l'objet window, enfin peu importe. Et vous prenez le media capture ici, Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il crée une URL de données pour pouvoir le mapper sur votre objet vidéo. L'objet vidéo, tout ce qu'il sait prendre, normalement, c'est une URL où vous lui envoyez une vidéo format H264, OMM ou ce genre de choses. De la même façon, vous regarderez dans les navigateurs qui supportent Media Capture, c'est exactement le même code. Donc, dans un Chrome ou un Firefox, il le supporte. On transforme un stream en une URL de données. Donc, du coup, je l'associe à mon tag vidéo. Il ne reste plus qu'un truc à faire, c'est play. Je vais démarrer et je vais avoir une erreur, mais ça, je sais que je vais avoir une erreur. Et l'erreur, elle est assez explicite. Il fait, t'as pas le droit. Par défaut, pour la sauvegarde de votre vie privée, vous n'avez pas le droit de démarrer la caméra sans demander l'autorisation à l'utilisateur. Donc il faut du coup le déclarer dans le manifeste. Vous avez un manifeste où vous déclarez vos intentions. Dans le manifeste, vous allez dire, voilà, moi j'aimerais bien accéder au microphone et à la caméra, à la webcam, de manière à ce que quand l'utilisateur va installer l'application sur le Windows Store, il sait qu'il est en train d'installer une application qui le va le prompter, il ne sera pas surpris. Et nous, de la même manière qu'on valide ça au niveau du Windows Store, si vous avez tout coché mais que vous utilisez juste la webcam, on va dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire de demander à l'utilisateur tous les droits pour juste utiliser la webcam? En faisant ça, du coup, je vais faire F5. Au moment où mon code essaye d'accéder à la caméra, je passe par un mécanisme de proxy. Windows 8 reprend la main. Il demande à l'utilisateur ce code a besoin d'accéder à la caméra, es-tu d'accord? Et donc si je fais oui, et bien vous accédez aux API pour initialiser la caméra et là vous me voyez. À n'importe quel moment, vous pouvez reprendre la main dans les settings ici, dans les permissions, et couper l'accès à la caméra. Alors du coup, j'étais un peu plus loin que ça, on va dire une heure plus tard. J'exagère, bon, une journée plus tard. J'ai repris exactement le même principe. Tout à l'heure, on a vu la notion de templating. Vous avez vu templating, j'avais juste un morceau de HTML que je vais vous servir pour définir la façon dont se dessine chacun des éléments. Là, j'ai une fonction JavaScript. C'est intéressant. Vous pouvez utiliser une fonction JavaScript qui, en fonction de là où vous êtes dans une list view ou une flip view, peut vous renvoyer un design différent. C'est ce que je fais en ce moment. Là, je vais prendre une photo. Je vais prendre une vidéo. Donc, coucou. Donc, bien sûr, on peut enregistrer les vidéos. Je les enregistre sur le disque. Je vais reprendre d'autres photos parce que j'ai besoin pour la démonstration. Voilà. Et là, vous voyez, quand je slide sur la gauche, là, j'ai la live preview. Donc, j'ai bien la caméra qui est utilisée. Et dans le contrôle Flipview, quand je vais sur la gauche, il va chercher les photos que j'ai prises actuellement en mémoire. Il me change le design pour afficher la vidéo que j'ai prise, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est un article que je pourrais vous partager sur mon blog et sur mon blog. J'étais un peu plus loin, je me suis dit, j'aimerais bien faire du traitement vidéo sur chacune des images. Donc j'ai commencé par faire du traitement vidéo mono-3D, JavaScript, sur un effet de blur par exemple. Ah, il a pris à peu près 3 secondes. J'ai la même version qui fait WebWorker. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du multi-threading-like. Je ne le fais pas parce que là, il faut que je sois en release pour que ça aille vite. En général, vous gagnez, vous divisez le temps par 2 ou 3 en fonction de votre CPU. Et pour finir, on vous disait qu'on peut appeler du code C++. J'ai demandé à mon copain développeur C++ qui maîtrise les shaders, les trucs compliqués. J'ai 12 cœurs dans mon GPU. Et en fait, avec le code C++, je lui envoie moi, mon image depuis HTML5 et je demande au GPU de me traiter l'image, et donc c'est avec ce composant qui est ici, et là on est en 117 millisecondes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au message que je suis en train de vous délivrer. Ça ne veut pas dire que HTML5, JavaScript est lent pour faire des applications, vous avez vu toutes les applications que je vous ai présentées jusqu'à présent. Mais là, pour accéder au GPU, le seul qui sait le faire, c'est C++. Donc imaginons que vous êtes sur un projet, donc vous avez vos développeurs qui bossent en JavaScript, en CSS, tout se passe bien. Et à un moment donné, vous avez un goulot d'étranglement sur la performance parce que vous savez que vous ne pouvez pas accéder au GPU. Rien ne vous empêche à ce moment-là de référencer un composant C++ et de l'utiliser et tout roule. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une petite partie en C++ et le reste sera fait en HTML5 JavaScript. Donc vous voyez plutôt comme une bonne nouvelle. Mais ensuite, il faut trouver le mec qui sait faire du shader C++, ça c'est un autre problème. Alors du coup, 14h, j'ai réussi à rattraper mon retard. Vous allez sur dev.windows.com, vous avez plus de 200 exemples de code. Les exemples de code sont très bien faits. Pour ceux qui ont fait des applications Windows 8, ils le confirmeront. Et vous pouvez, chacune des features que vous pouvez imaginer sur Windows 8 sont décrites. Sur mon blog, en fait, j'ai fait deux séries de tutoriaux. Le premier vous explique comment faire le lecteur de flux RSS depuis zéro, en deux articles. Et la deuxième série de tutoriels, il faut quatre articles pour faire l'application de caméra que je vous ai montré, qui référence le composant C++, qui vous montre comment faire du binding plus évolué. Vous avez des ressources. Si vous voulez faire des applications Windows 8, vous allez sur ak.ms/accélérateur-windows. C'est aussi le Windows Phone, de l'Azure, du Windows 8. Vous avez possibilité d'être coaché par Microsoft. On vous suit jusqu'au store. On vous accompagne vraiment. Donc, vous avez des ressources humaines pour vous aider. Si vous n'avez pas de tablette, à la fin, on a un petit pool de tablettes qu'on peut vous prêter. Alors, on ne peut pas prêter des tablettes à tout le monde. Puis, on a beau être Microsoft, on ne donne pas non plus de tablettes à tout le monde. Mais on peut vous en prêter si vous avez besoin de finaliser l'expérience Touch pour voir comment votre application se comporte. On peut vous en prêter pendant une semaine, si vous voulez. On a quatre ouvrages qui ont été écrits par des gens de chez Microsoft, dont un sur le développement Windows 8, qui est le deuxième. Donc des gens de notre division consulting. Donc ils ont travaillé ardemment pendant plusieurs mois pour le faire. N'hésitez pas à jeter un œil. Donc ils couvrent toutes les plateformes. Là, vous voyez C, C++, XAML, HTML5. Vous serez servi. Et voilà. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Il y a un micro pour cela.